Catherine Sinave, donc auteure de À la table des designers. Avant de présenter Catherine Sinave et de présenter son livre, je vais juste dire un petit mot pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis auteure de livres de cuisine, donc c'est une belle rencontre justement qui m'était proposée ce soir. Auteure de livres de cuisine pour les éditions Sud-Ouest, pour Atier Jeunesse, j'ai un livre qui sort au mois d'avril sur la Java du riz. Et j'ai également un site Food Party et je fais des événements culinaires. Voilà. Bon, fini de parler de moi. Maintenant, je parle de Catherine puisque c'est elle qui nous permet de nous rencontrer ce soir. Donc, Catherine Sinave est journaliste, aime la décoration, l'art de vivre, la peinture, la sculpture et publie régulièrement des reportages, enfin fait des reportages dans Marie-Claire Maison, vous me direz si je me
C'est
trompe, Maison et
surtout,
Jardin, et maintenant.
maintenant, c'est surtout Maison Française.
Alors, Maison Française, voilà.
Il y en a eu d'autres, bien sûr, mais.
Voilà, donc maintenant,
Oui,
c'est plus
Maison Française.
Maison Française et a publié, a été l'auteur d'un livre, Un grand week-end à Paris. Donc, voilà, c'était vous qui avez lancé, je crois,
La collection, oui.
cette collection. Alors, la table des à la table des designers, donc aux éditions de la Martinière, et quand on regarde ce que c'est que les éditions de la Martinière, pour ceux qui ne connaissent pas, j'aime bien cette définition, c'est un éditeur de livres illustrés par un texte fort. Et effectivement, à la table des designers, ce livre est vraiment très bien illustré par des images magnifiques de Guillaume Delobier et par un texte fort, très distillé, mais très bien écrit, et on va y revenir. Alors, ces carnets de cuisine, face à la table des designers, pourquoi je trouve ça intéressant, ce livre? Parce qu'il est très, c'est vraiment original dans le propos, puisque il y a eu pas mal de livres sur les carnets de cuisine ou à la table de Renoir, Picasso, Monet, Colette, qui étaient un peu dans cet esprit de montrer l'univers d'un créateur et aussi sa table. Bon, ça c'est. Mais c'était des auteurs disparus, tandis que là, ils sont bien vivants. Et bien accueillant, puisque grâce à ce livre, on pénètre dans leur univers intime. Et je trouve que c'est très intéressant. C'est basé sur des rencontres, des réminiscences, des recettes et des images. Alors, Catherine, comment avez-vous eu expliquez-nous comment vous avez eu l'idée de ce livre et comment vous avez mené ce projet
Alors, ce genre de sujet, c'est-à-dire ce qu'on appelle un peu dans notre jargon magazine l'art de recevoir, je l'avais déjà traité un certain nombre de fois, justement pour Maison Française. Et c'est un sujet que j'aime bien traiter. Je trouve que c'est toujours agréable de toute façon de montrer qu'on peut avoir une jolie table avec peu de choses, qu'il suffit souvent de quelques idées, d'un gentil mélange, d'un gentil méli-mélo, et qu'on arrive à des résultats qui sont assez surprenants. Et j'avais envie de transcrire ça dans l'édition. Et je me disais, qu'est-ce que je peux ajouter de plus qui n'ait pas été fait? Alors j'ai un petit peu pensé un moment à l'heure du thé chez un tel ou une telle. Je me suis dit, non, c'est pas suffisant, on n'aura pas assez de photos. Et je me suis dit, mais après tout, gardons l'idée de la table, gardons l'idée du recevoir, mais on va le cibler, et on va le cibler uniquement chez des designers et des créateurs. Et bingo, on est parti sur. J'en ai parlé au photographe Guillaume Delobie, avec lequel j'avais déjà travaillé un certain nombre de fois, et il a accepté l'idée, et on est parti là-dessus.
Voilà. Et donc, comment vous avez choisi? Alors, vous m'avez
Alors,
raconté
bon.
déjà le début, les premiers.
Oui, pour choisir, bon, on a d'abord voulu présenter à un éditeur un projet assez abouti, assez construit, c'est-à-dire qu'on a demandé à certains des designers s'ils acceptaient de jouer le jeu, c'est-à-dire de nous mettre une table, de nous, pardon, excusez-moi, de dresser une jolie table, d'imaginer une recette, alors que nous ne savions pas à quel éditeur nous allions le présenter.
C'était
Et
l'avant-projet, quoi.
c'était un avant-projet, mais le photographe pensait que c'était une bonne chose de montrer déjà une pré-maquette pour essayer de démarcher les éditeurs. Et j'ai donc pris mon téléphone et j'ai appelé cinq personnes que je connaissais, soit parce que j'avais déjà travaillé avec elles, sauf parce que je les connaissais de façon plus amicale, et qui ont toutes les cinq dit pourquoi pas, et qui ont accepté donc de nous recevoir. Et ça, on a fait ça une année en juin, avant les grandes vacances. Et puis, à la rentrée de septembre-octobre, on avait donc un sujet déjà construit pour cinq personnes, une pré-maquette faite par une directrice artistique qui s'appelle Clémence Delobier, et avec laquelle on s'est très bien entendu et qui a très bien senti ce que l'on voulait faire. Et avec cette pré-maquette, la Martinière a tout de suite dit « ça m'intéresse ». Ça a été relativement facile, toi dire. Et ça a été la bonne surprise d'ailleurs, parce que la Martinière est un éditeur qui est quand même assez agréable, important. Et ce qui a été la bonne surprise, c'est qu'on n'a pas eu à emmener, à partir avec notre dossier sous le bras, aller voir un tel, ça a été...
Tout de suite.
Banco, tout de suite, voilà.
Oui, et c'est d'autant plus intéressant que comme ça marie à la fois reportage image, la décoration et aussi un vrai carnet de recettes, et donc ça s'adresse, si on va au rayon, chez Mola, au rayon art de vivre, au rayon cuisine, il n'y est pas, il est au rayon design. Donc, quand on est un peu à cheval comme ça sur deux rayons, ce n'est pas évident pour un éditeur. Donc, ça prouvait que le sujet était vraiment original et pertinent.
Je vous remercie. Mais...
Surtout quand on sait qu'il y a deux livres de cuisine qui sortent tous les jours, des nouveautés tous les jours, qu'il y en a...
Deux livres de cuisine tous les jours.
C'est ce que m'a dit l'attaché. Elle m'a dit deux nouveautés à peu près. Il y en a combien par an? C'est absolument délirant. Et sur le design, moins, je pense. Et la déco. Mais sur la cuisine, c'est énorme. Donc, trouver une place originale, c'était assez...
Donc, on s'est dit que ça touchait l'art de vivre, l'art de recevoir et évidemment la gourmandise, enfin la cuisine.
Voilà, la gourmandise et la cuisine. Ouais.
Donc l'idée des recettes, ça a été que chacun nous donne celle qui évoquait pour lui un souvenir ou une tradition. Alors, c'est un peu donc ça a été aussi bien le plat de pâtes qu'on apprend à faire quand on est en vacances en Italie pour certains et qu'on va après refaire à la maison, comme le pot-au-feu, l'éternel pot-au-feu, mais traité de façon amusante avec des sauces différentes en fonction des amis. Il y a la sauce pour les Allemands, il y a la sauce pour les Anglais, il y a ce genre de choses. Donc tout ce qu'on peut aimer faire, il y a un des premiers desserts qu'on ait pu goûter quand on était enfant et qu'on a essayé de refaire ensuite.
Oui, ce sont tous de grands enfants, je pense.
Je sais pas, mais en tout cas, il y a aussi les recettes.
Ils le disent beaucoup.
De la grand-mère ou de la grand-tante.
Oui.
Et puis des recettes typiques, par exemple, parmi les designers, il y a une personne qui s'appelle Mariam Madavi, qui est d'origine iranienne. Et évidemment, ces recettes sont des plats iraniens pur jus.
Là, on a une découverte. Oui, on découvre.
Ah oui. Et ce sont des plats délicieux. D'ailleurs, j'en ai goûté certains. Long à faire, je dois dire.
C'est eux qui vous les ont fait goûter ou c'est vous qui les avez...
J'en ai goûté chez d'autres amis iraniens. Ceux-là, je ne les ai pas goûtés.
Les Iraniens.
On n'a pas eu le temps de les goûter.
Et celui de... Et pareil pour, comment il s'appelle, Nestor Percal, qui est là
alors
aussi.
Ça, et puis en plus, Nestor Percal, c'est la citrouille. Donc il faut... Enfin, comment dit-on le... Oui, la citrouille.
Oui, la citrouille.
Le potiron, pardon.
Le potiron.
Donc il faut que ce soit à l'automne.
La saison. Oui.
La saison, et c'est un plat argentin. Mais qui est peut-être moins long à faire parce que ça... Une fois mélangé tous les ingrédients, ça cuit tout seul, ça mijote tout seul.
Oui. Les Iraniens, c'est toujours
Alors
un peu long.
Alors que les Iraniens, il y a pas mal de manipulations.
Beaucoup de préparation.
Mais c'est toujours délicieux.
Et donc, ils sont tous différents, les chapitres sont tous différents. Vous les avez classés par ordre alphabétique, c'était pour ne pas faire de jaloux, c'était
pour
comme ça.
Écoutez, ça, je crois que c'était une décision de entre l'éditeur et et la direction artistique, je crois.
Oui, voilà, c'était une simplification. Oui.
Mais de toute façon, je savais, par le choix des personnes, je savais que aucun chapitre ne ressemblerait à un autre. Donc, parce qu'il y avait des créateurs qui étaient, j'allais dire, plus d'un esprit un peu romantique, et alors qu'il y avait des designers qui étaient, eux, très minimalistes, très pur et dur, donc...
Ou très baroque, oui, alors ils sont tous...
Alors, il y a la touche baroque, vous avez raison. Il y a des touches orientales, méditerranéennes, mais avec les noms qu'on a sollicités, on était certain d'avoir un livre extrêmement varié et extrêmement original.
Oui, et c'est très varié aussi comme origine. Il y a des Français, Italiens, enfin, vous avez beaucoup voyagé.
On a voyagé. On est allé à Londres. Donc là, il y a à la fois le côté des designers très jeunes et très, très minimalistes, et puis il y a un designer plus, un petit peu plus, comment dire, plus, je ne veux pas dire, oui, enfin une quarantaine d'années, qui lui a un esprit beaucoup plus anglais, festif, et qui a fait des choses très amusantes.
Oui, alors là, on n'a pas. C'est comme à la radio ici. Hein, vous n'avez pas les images sous les yeux. Il faut imaginer.
Et les Italiens, on a. Ça va aussi de choses très très pures, d'un design italien très 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 classique.
Oui, vous pouvez
des
nous les.
Plus traditionnelles.
Ah, j'ai pas mis les.
Et puis il y a évidemment Fornacetti qui est
le Fornacetti.
Fils de Barnaba Fornacetti. Excusez-moi de l'autre, non, de Piero Fornacetti. Barnaba Fornacetti, qui a repris la tradition Fornacetti, qui l'a développée de façon extraordinaire.
Et donc là, tout l'univers est Fornacetti.
Alors, tout l'univers est Fornacetti. Oui, ça se passe dans la maison du père qu'il a gardée et il y a apporté sa touche personnelle. Il a élargi considérablement la gamme de mobilier, de vaisselle, d'objets, de toutes sortes. Et c'est une maison, c'est un univers incroyable.
Oui, alors justement, il y a des...
De trompe-l'œil.
Certains, on voit qu'ils sont dans leur univers et ils mettent leurs objets.
Oui. Hein,
vous pouvez en citer quelques-uns.
Par exemple, Fornacetti, c'est
Fornacetti, c'est entièrement du Fornacetti.
Ouais.
Alors que d'autres mélangent. Il y a beaucoup le mot mélange dans le...
Oui,
qui se retrouve un peu au fil de tout le livre. Hein,
par
des
exemple,
mélanges.
En France, on peut parler de designers les héritiers qui sont éditeurs de ce qui s'appelle les héritiers et qui eux vivent aussi bien. Ils ont très peu de meubles qu'ils dessinent dans leur appartement. Il y a une table basse si je me souviens bien, mais peut-être une. Peut-être aussi la table des repas, mais le reste, la verrerie est vénitienne, il y a des tableaux du 17e au mur, enfin c'est
mélangé.
On ne s'attendait pas du tout à ça.
Oui, ils sont très. Ils jouent
ils ont un côté collectionneur, si vous voulez, de meubles anciens, d'objets anciens, et ce qu'ils dessinent est tout à fait contemporain.
Alors qu'à l'opposé, Mathalie Grasset,
alors, Mathalie Grasset vit tout à fait dans son univers, elle, en revanche.
Elle est un univers à elle toute seule.
Elle est un univers à elle toute seule et elle vit dans son univers.
Elle vit dans son univers.
D'ailleurs, la table sur laquelle... c'est sa table, c'est une table qu'elle a dessinée. Et c'est en réalité, c'est assez amusant parce que c'est un jeu de plateau.
C'est très Mathalie Grasset, minimaliste.
Donc,
enfin,
imaginez cette table divisée en deux, il y aurait deux plateaux. Qu'on enlève. Donc ce plateau-là pourrait rester avec le micro, le verre, la main, hop, on le prend, on le met à côté, et à la place, on met le plateau sur lequel on a laissé la veille, les dossiers, le portable, les crayons, etc.
Oui, de toute façon, c'est un menu de saison, c'est très informel, c'est très...
C'est la vaisselle qu'elle a dessinée, en fait, on est vraiment chez elle.
Oui, vraiment chez elle.
Chez elle et avec elle.
Bah, on est tous avec eux, mais il y a certains qui sont très dans l'auto un peu.
Oui, quand je veux dire avec elle,
dans son univers.
Et dans l'image qu'elle donne d'elle à travers les objets ou les meubles qu'elle peut créer. Donc ce n'est pas le cas pour tous.
Non. Donc la façon dont ça a été construit chaque chapitre, est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi comment vous avez fait votre trame, votre
on
recette,
a fait une trame, recette bon, un peu. Ben, l'idée c'était toujours évidemment la table dressée. Et dans laquelle on a ensuite, une fois qu'on avait photographié la table dressée, on bougeait un petit peu les choses, on les manipulait de façon à pouvoir photographier certains détails. Et puis on tournait un peu dans la pièce ou les pièces avoisinantes dans lesquelles on pouvait photographier des à côté. Ça pouvait être des petites choses qu'on offre à l'apéritif, ça pouvait être des choses pour le thé, ça pouvait être des choses pour le café, de façon à enrichir un petit peu les images et à donner un aperçu de l'art de vivre de ces personnes. Et puis le schéma du texte était le même pour tout le monde.
Alors racontez-nous un peu comment vous avez...
Donc il y avait évidemment il y avait les questions indispensables, Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous recevez? Quels sont vos trucs? Quels sont vos tics? Qu'est-ce que vous ferez toujours? Qu'est-ce que vous ne ferez jamais? Ce genre de choses. Et puis à côté, il y avait, de façon à pouvoir mettre des petites phrases en exergue pour rythmer la maquette et puis pour élargir un petit peu le texte, des petites phrases types. Qu'est-ce qu'on vous dit de vous? Qu'est-ce qu'on dit de vous comme de votre personnalité? Qu'est-ce qu'on dit de vous en tant que designer? Comment est-ce qu'on définit votre design? Et puis, on a eu l'idée aussi à un moment de photographier, enfin de prendre le portrait des designers et des créateurs avec ce qu'on leur disait être soit votre objet fétiche, soit votre animal fétiche. Et chaque fois, on leur demandait d'expliquer pourquoi ils avaient choisi cet objet. Donc, il y a eu des choses assez amusantes.
Oui, y compris, vous avez commencé avec le lapin.
On a commencé avec le lapin, un lapin tout à fait par hasard, le lapin de Patrice Gruffas qui traînait à l'entrée de sa chambre, que j'ai ramassé, que j'ai pris par les oreilles, qui avait 100 ans ce lapin, qui était sympa comme tout, et je lui ai dit, est-ce qu'on peut vous prendre, faire votre portrait avec le lapin? Et il a dit, mais oui, pourquoi pas. Et à partir de là, on a dit à tout le monde, on continue. Donc soit l'animal fétiche, soit l'objet, soit... Et c'est comme cette personne qui est très créatrice, qui travaille, et presque artisan oui. elle-même, qui est Joy Doran-Chabot, oui. qui travaille le métal, le bronze, qu'elle peint ensuite. L'objet fétiche, enfin, ça a été l'animal fétiche, ça a été l'escargot, parce que tout ce qu'elle crée parle de la nature, que ce soit végétal ou que ce soit animal. Elle mettra, d'ailleurs c'est dans le livre, elle mettra elle fera des papillons qu'elle appelle des papillons en métal peint, agrémentés de boules de cristal, qu'elle va accrocher à ses meubles avec des petites tiges tournicotées comme un ressort, et qu'elle appelle mes papillons trembleurs. Et de même qu'elle va mettre des escargots, parce qu'elle est fascinée par le jardin et l'escargot partout. Donc elle aura un escargot sur sa main, parce que c'est un de ses animaux fétiches. Mm. Parce que l'idée de la coquille qui protège... Et
dans la maison, ça se retrouve.
Dans la maison, ouais. Quelque chose qu'elle aime.
Et l'autre, c'est les fils de fer. La fil de fer...
La fil de fer, elle a choisi... elle fait un très joli travail.
Marie-Christophe.
Marie-Christophe. elle travaille le fil de fer... à une vitesse hallucinante, faut la voir. Elle prend un rouleau de fil de fer, elle a une petite pince en main, et puis je sais pas, ça part à toute allure, et en très peu de temps, c'est devenu une forme ou c'est devenu un animal. Et elle a choisi comme objet fétiche son premier animal, justement. Mm. Et elle a voulu montrer ça, elle l'a gardé.
Vous avez, alors, dans cette trame aussi, dans chaque chapitre, il y a une bio,
oui, bien sûr,
voilà, bio rapide, pour une petite présentation, et on se rend compte que, ça, effectivement, ils ont tous des parcours différents.
Ils ont tous des parcours différents.
Mais très riches, oui, et que la plupart dessinent pour l'art de la... Enfin, presque tous.
Beaucoup, hein, oui,
sont
pour l'art de la table.
Et il y a un vrai un designer culinaire, un seul qui est... Marc Bretillo et sa sœur.
Oui.
Je ne savais pas que c'était sa sœur.
Mathilde Bretillo.
Donc, qui, lui, est designer culinaire, c'est-à-dire qu'il conçoit à la fois les formes et les contenants des aliments. Lui, c'est le plus abouti dans cette démarche design et table.
Oui, et donc sa sœur, Mathilde Bretillo, est uniquement designer, mais elle a fait des choses pour la table, comme des choses pour la table, donc pas un certain nombre de choses pour Christophe, d'ailleurs. Et Marc Bretillo donne des cours de... Comment est-ce qu'on appelle food design,
C'est lui qui a créé l'enseignement de design culinaire
À Reims.
Voilà. Il y a aussi des... Alors, vous leur demandez leur livre de recettes préférées.
Oui, alors...
Là aussi, c'est souvent. Alors, dites-nous.
Bon, pour certains, il n'y en a pas. Parce que c'est... Ou bien c'est des livres qui traînent dans la maison de génération en génération, qu'ils gardent. Pour d'autres, c'est un coup de téléphone à
sa maman.
Ou à une tante, à une grand-mère, ou à une amie qui fait bien la cuisine. Et puis, je veux dire que pour d'autres, il y en a pour lesquels ce sont des livres de recettes de restaurants auxquels ils aiment bien aller. Et pour certains...
Aucun.
Aucun. Pour certains, bon, c'était...
Ça restait dans le flou. Ça,
oui.
Il y a ceux aussi qui disent qu'ils ne veulent pas se laisser influencer.
Absolument.
Ou alors qu'ils déchirent dans les journaux, dans les, un peu ce que, oui, qu'on, oui, fait, les, oui, dernières,
vous,
recettes.
Vous avez tout à fait raison, bravo. J'avais oublié ça.
Ah, j'ai vu ça, oui. Et le choix de la recette. Alors là aussi, donc leur choix de recette...
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un souvenir, c'est une tradition, c'est le souvenir d'un moment heureux, c'est un souvenir familial, c'est un souvenir gustatif.
Oui, c'est beaucoup, ensuite, c'est ce que je disais, les réminiscences.
Oui,
on est dans parce que ça va aussi avec l'intérieur, l'intimité en général.
Ou ce qu'on aime bien donner à ses amis, ou la recette qu'on fait le plus souvent quand on reçoit. On fait tous parfois, d'ailleurs, c'est vrai, quand on reçoit, on a des cycles. Enfin, je ne sais pas comment.
Alors justement, la façon de recevoir est assez différente. Enfin, alors il y a ceux qui font. Qui improvisent, ceux qui testent les recettes d'abord, ceux qui ont une face A et une face B, c'est-à-dire selon les gens. Racontez-nous, ils ont tous des façons.
Oui, ben ça, je crois que c'est vraiment une question de personnalité. Il y en a qui font très très bien la cuisine et qui, malgré ça, auront un certain trac avant de. Une fois réalisés les plats, au moment de les présenter, de les offrir. Donc ceux-là auront plutôt tendance à faire une ou deux répétitions avant, effectivement.
Oui, ça...
Et bon. D'autres, au contraire, qui vont se lancer. Et puis,
oui, il y en a qui improvisent.
Voilà, bonne franquette. Et en général, ça marche, je le dis. Parce qu'ils sont quand même... C'est ça qui est amusant de voir.
Recevoir.
C'est que ce sont des gens qui... En fait, ils aiment créer tout. Que ce soit un meuble, que ce soit un verre, que ce soit un objet... Et un plat. Et beaucoup, beaucoup vont vous dire, je ne fais jamais tout à fait la même chose, parce que je vais changer un jour, je vais changer d'épices, je vais changer d'ingrédients, je vais rajouter un peu de ceci, je vais enlever un peu de cela. Et au fur et à mesure, on goûte, et le plat aboutit, et c'est une nouveau, et c'est une création.
Oui, ils sont tout le temps dans la création, quand même.
D'ailleurs, il faut dire que ceux qui ne sont pas intéressés par la cuisine n'auraient pas accepté de participer à l'ouvrage.
Oui, il y a toujours cette relation un peu privilégiée.
Il y en a un ou deux qui m'ont dit non, la cuisine, non, on ne la fait pas, ça ne nous intéresse pas, on ne va pas faire le livre. De même que...
Oui, c'est sincère, quoi. Il y a une vraie...
Et de même qu'il y a un designer italien, d'origine allemande, mais qui vit à Milan, et qui m'a dit non, moi je...
C'est lui qui fait le plateau, enfin qui organise, non, il y en a un qui organise un plateau.
Ah oui, il n'est pas dans le livre.
Il y en a un qui organise un petit... Plateau,
Il y en a qui n'est pas dans le livre. Il m'a dit non, moi j'ai dessiné des objets pour la cuisine. Alors vous m'auriez dit que vous vouliez faire des photos de cuisine, j'aurais accepté. Mais non, la table, c'est pas mon rayon, c'est pas mon centre d'intérêt.
Oui, il y a une vraie implication.
Il voulait rester tout à fait sincère dans sa ligne de création.
Et dans vos choix. Ce livre, je reprends l'idée d'un designer qui dit « Le design, pour moi, c'est un collage. » C'est Esslinger, je crois, qui a dit ça.
Oui.
Et je trouve que ce livre aussi est un collage, parce qu'il y a plein d'idées de déco, de recettes,
elles sont très,
des astuces.
Ce qu'on disait tout à l'heure, tellement différentes d'un chapitre à l'autre.
Et très bien distillé comme ça. C'est vraiment un collage. Et c'est aussi ce qu'on retrouve, un petit théâtre. Hein, chaque chapitre est comme un petit théâtre parce que chacun reçoit, met en scène. D'ailleurs, c'est toujours. Ça existe depuis toujours, de toute façon, cette idée que la table, c'est un théâtre.
D'ailleurs, on dit mise en scène, on met la table en scène.
Et c'est Châtillon-Plessis, j'ai trouvé une citation qui dit « La cuisine et la coulisse et la table, la scène. » À ce théâtre, il faut un aménagement. À cette scène, il faut un décor. C'est tout à fait ça. Ça date du 19e, mais je crois qu'on
peut... Qu'est-ce qui a dit ça, pardon ?
C'est Plessis, Châtillon-Plessis. C'est un critique gastronomique du 19e.
Bravo, bravo.
Mais Fabio Rotella dit la même chose. Il parle de théâtre.
Oui,
Il parle de cette idée de théâtre. Et certains, d'ailleurs, des designers sont très théâtreux, carrément.
Bien sûr, bien sûr.
Il y en a qui sont plus... Parmi ceux-là... qui sont les plus riches, un peu la mise en scène.
Oui, le quotidien continue d'une certaine façon la création. Mais quand vous parlez de Rotella, c'est amusant parce que non seulement il a parlé de ça, mais en plus il a une façon de recevoir qui est très amusante, en dehors de sa mise en scène de la table, c'est qu'il il prépare en quelque sorte les dialogues et les échanges qui vont avoir lieu pendant le dîner.
Il fait les dialogues.
Il va partir d'un livre qu'il est en train de lire, ou, et il va, à propos, il va parler de ce livre aux amis qu'il recevra, et il va leur demander ce qu'ils en pensent, et à partir d'un des thèmes que le livre va évoquer, il va partir sur un sujet, que ce soit un sujet politique, un sujet artistique, un sujet de cinéma, de théâtre, peu importe.
Il y en a qui font les plans de table et il y en a qui font les plans de conversation.
En quelque sorte. Mais ça rejoint l'idée de la scène. C'est une,
oui, c'est un vrai théâtre.
Une deux scènes qui se superposent, en quelque sorte.
Alors, il y a aussi pas mal de choses sur le design, la façon, de concevoir la création. Oui.
Chacun a donné sa définition de ce qui est pour lui le design.
Oui, alors soit un collage, soit...
Oui, ça peut être un collage.
Nathalie Grasset dit, c'est rendre le contemporain. Qu'est-ce qu'elle dit, Nathalie Grasset? Je ne sais pas si...
Elle est plus dans
le... Le design accompagne le contemporain pour donner du relief à la vie.
Oui, et puis elle a toujours cherché d'avoir un travail très ergonomique, qui s'adapte vraiment au geste de la personne.
C'est un vrai designer vrai du terme, c'est pas une décoration.
C'est amusant parce que dans ces définitions du design, il y en a qui sont plus intellectuelles que d'autres, plus abstraites, plus terre à terre, il y en a qui sont plus sensuelles, c'est très amusant.
Alors, j'ai trouvé aussi une citation qui m'a semblé assez amusante à Bordeaux. Un dîner réussi est un dîner où le vin est bon.
Ah oui.
Ça, c'est Hubert Le Gall.
Oui.
Qui est dans l'ancien atelier de Bonnard, donc c'est très beau.
Oui, alors une partie de son atelier était... C'était un endroit magique à Montmartre, qui est tout à fait discret. C'est un endroit, on a l'impression d'un petit immeuble banal. On pousse une petite porte d'immeuble pas plus large que cette porte-ci. Et puis on arrive dans un dédale. Un dédale de ruelles qui sont toutes bordées d'ateliers. Bordées d'ateliers, mais de plantations et de sculptures qui ont dû être laissées par tous les gens qui ont travaillé dans ces ateliers au XXe siècle.
Donc c'est assez fascinant. C'est resté en l'état.
Et lui a un double lieu en quelque sorte, mais l'endroit où il dessine, où est son bureau, où il a vécu, où il vit encore par moments et où on a fait les photos, et juste à côté de l'endroit où les choses sont faites, manuellement faites. Mmh. Et c'est dans cet endroit où les choses sont manuellement faites que travaillait Bonnard.
Ah, c'est bon.
Mais c'est une histoire, c'est un lieu absolument, moi j'ai découvert ça.
Ça c'était
le plus magique, je dirais.
Et la rencontre avec Olivia Putman. Parlez-nous de Putman.
Ben, Olivia Putman... André Putman vient de partir, oui. Elle nous a quittés il y a très peu de temps.
Donc vous l'avez vu avant, c'était quand vous l'avez...
Non, je n'ai pas vu André Putman.
Non, je veux dire Olivia.
C'était l'hiver... c'était il y a un an à peu près. Et donc elle a eu l'idée d'un goûter parce que... Je ne sais pas, l'idée de la musée, chacun
elle
était libre.
Elle fait référence au goûter d'anniversaire de ses enfants.
Goûter d'anniversaire des enfants, chacun était libre de choisir ce qu'il voulait faire. Et elle voulait faire le goûter, le gâteau au chocolat qu'elle fait traditionnellement pour ses enfants et qui, je dois vous dire, est belle comme chou, fait en 5 minutes et absolument, là on a goûté, absolument délicieux.
C'est gâteau choco-marron, c'est-à-dire crème de marron, c'est le gâteau chocolat, mais la crème de marron remplace le
sucre et toutes les choses.
Ce qu'avait fait, c'est
le liant et c'est délicieux. Et donc, on a quand même montré certains des objets que sa mère avait pu dessiner pour les arts de la table, qu'on a mêlés à certains autres qu'elle fait elle-même. Mmh. Et elle est aussi décoratrice, comme était sa mère. Mais la plupart de tous ces designers ou créateurs sont aussi architectes d'intérieur ou décorateurs, ou les deux, ou les trois. Enfin, je veux dire architectes d'intérieur, décorateurs, designers. Ils vont aussi bien...
Et parfois cuisiner.
Et parfois cuisiner. Voilà. Quand ils ont un peu de temps, cuisiner. Et beaucoup aussi, ce n'était pas toujours facile de les accrocher. Et certains, d'ailleurs, nous n'avons pas pu les avoir parce qu'on avait des délais très courts. Les photos ont été faites en moins de 3 mois, et en allant à l'étranger aussi. Et certains, malheureusement, nous n'avons pas pu les avoir parce qu'ils n'étaient pas là. Ce n'était pas possible. Et ce sont des internationaux. Je m'arrachais les cheveux. Ah oui, non, mais elle part pour Tokyo. Ah bon, non, mais elle va en Inde pour choisir des tissus. Ah non, mais bon, voilà. Et ce sont des gens qui travaillent dans le monde entier.
Mais Olivier Putman, Olivia. Le mot dépareillé se décline dans un esprit de surprise et d'humour. Enfin, oui. C'est vous qui l'écrivez. C'était assez amusant quand on pense à André Putman. Le dépareillé, tout se mélange, les périodes et les styles. Donc elle est éclectique. Mais pour les dîners, l'équilibre et la symétrie sont de règle, plus l'inspiration quand même.
Ouais.
La beauté dans la simplicité, je trouve qu'on retrouve bien là André Putman.
Elle
s'en différencie tout en on voit l'empreinte.
Ouais, c'est comme les couverts qu'elle recherche, elle parle des couverts qu'elle achète et qui sont des couverts anciens mais qui ont une ligne extrêmement simple et dépouillée.
Oui, bah ça c'est de famille quand même.
Oui, mais ce sont des couverts anciens.
Oui. Autre personne qui est le design discret appliqué au quotidien, Niger Holger Moormann, je ne connais pas.
Niels Holger Moormann travaille en Bavière dans un lieu étonnant parce que, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est une ancienne, c'est dans un bourg ou un gros village dans la montagne. Et il a installé ses bureaux et le lieu où il habite dans une ancienne... comment dire? C'était... je ne trouve pas le mot. C'était un lieu... des bâtiments très beaux en U et dans lesquels il y avait une garnison et les écuries d'un régiment. Enfin, je ne sais pas comment... à l'époque de Guillaume II. Donc, c'est assez étonnant. Et là-dedans, il a mis son mobilier qui, lui, ou le sien, ou un mobilier qu'il fait éditer, et qui est un mobilier de jeunes créateurs qu'il parraine, et qui est un mobilier extrêmement simple, où le bois est très présent, un bois clair, et des astuces très, très simples, comme le fauteuil bibliothèque. Les accoudoirs sont larges, creux, et on met les livres à l'intérieur, et la lampe est intégrée. C'est très amusant d'aller chez lui. C'est très simple, c'est noir, bois blond, et des petites astuces de couleur, des fils rouges, comme un fil continu d'un meuble à l'autre. Enfin,
Autre personnalité qui était, vous m'avez parlé tout à l'heure, celui qui a fait ses essais sur les grandes tables, qui fait ses...
Ah oui, alors ça, c'est un Anglais qui est assez jeune, qui s'appelle Sébastien Bergne, mi-anglais, mi-Bergne est un nom d'origine française, je crois. Et c'était très amusant parce qu'au moment où je lui ai demandé s'il accepterait de participer à l'ouvrage, il était justement en train d'organiser une exposition à Londres pour mettre en scène tous les produits qu'il avait dessinés pour la table et pour la cuisine. Il travaille pour Tefal, par exemple. Et il avait eu l'idée de préparer la table, comme s'il recevait. Et les gens venaient voir cette exposition qui avait lieu dans un studio. Et une fois par semaine... Il allait beaucoup plus loin dans son projet, c'est-à-dire que les gens étaient sur invitation, les gens venaient et participaient à un vrai dîner. Et à l'occasion de ce vrai dîner, il faisait tester la vaisselle qu'il avait dessinée, ou les plats dans lesquels le repas avait cuit ou mijoté, et qu'il avait dessiné également. Donc c'était assez amusant parce que le photographe a choisi d'illustrer son propos par une série de photos. En changeant chaque fois l'éclairage au fur et à mesure qu'on imaginait que le repas se déroulait et allait se terminer. Et ça commençait avec un consommé de betterave, si mes souvenirs sont bons, et on changeait la vaisselle, et ensuite il passait au plat, et on changeait la vaisselle, et il passait au fromage et fruits, et ensuite au dessert, en montrant chaque fois qu'on pouvait utiliser des choses qui n'étaient pas forcément destinées à ce qu'on croyait. Par exemple, le dessert, qui était des petites crèmes, il les avait mis dans des petites boîtes de plastique qui n'avaient rien à voir, qui peuvent être un petit vide-poche, que vous mettez sur votre table de chevet. Et il mettait sa petite crème dedans.
Oui, c'est plein d'avancement.
Donc ça, c'était une idée amusante. Et il recevait, donc une fois par semaine, à peu près une vingtaine de personnes.
J'aime bien aussi la façon dont vous racontez, parce que là aussi, vous nous faites un peu saliver, et vous nous faites vraiment rentrer dans cet univers, dans ce théâtre... la façon de recevoir, la façon dont vous utilisez parfois le conditionnel.
Oui.
Au lieu de dire puisque vous leur avez posé des questions, c'était assez écrit.
Oui, c'était écrit. Oui.
Voilà. Et donc, savoir comment ils reçoivent. Bon, ben, vous racontez ça au conditionnel, c'est-à-dire que ça peut se passer comme ça. Mais comme on sait que ce sont des créateurs et qu'à chaque fois, c'est différent, c'est donc en conditionnel. Donc, on est dans le... On se raconte un dîner qui pourrait, ça commencerait avec du champagne rosé, puis après voilà, il y aurait ceci. Donc c'est au conditionnel. Donc effectivement, on est dans le. On raconte.
Ouais,
il y a une scène, il y a des personnages et c'est assez amusant. C'est comme une petite histoire.
C'est d'autant plus une histoire que les dîners ne sont jamais les mêmes. Les dîners dépendent des invités. Et les invités ne sont jamais. Enfin, bien sûr, il y a les habitués, il y a les intimes qu'on va réinviter. Mais. Même avec les intimes, les conversations ne sont jamais les mêmes et les invitations peuvent se succéder en étant très différentes les unes des autres. D'où le...
Mais voilà, donc
on ne sait jamais, c'est toujours la surprise, c'est l'effet de surprise.
Mais ça, c'est valable et je lisais récemment un article sur la mode de la dinette design. Et là, on n'est pas dans la dinette.
Qu'est-ce que c'est la dinette
design? Dinette design, ben, c'est la mode du finger food, des apéritifs
dinatoires,
des food trucks, etc. Mais c'est la même chose. Il disait, on est loin de la table dressée des obligations cérémonielles. La seule exigence, c'est la qualité et le partage d'un bon moment. Mmh.
On retrouve ça pour beaucoup.
Que ce soit n'importe quelle cuisine, l'important, c'est le partage, c'est l'ambiance, c'est le vin, c'est l'atmosphère et c'est l'écriture.
Voilà.
Merci. Bon,
merci à vous, parce que vous avez une très jolie connaissance de mon livre et je vous en remercie.